Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les universitaires appellent cette région de l'Europe les Balkans occidentaux. Le commun des mortels évoque plutôt les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Ils sont cinq, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, on dit maintenant Macédoine du Nord, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, auxquels il convient d'ajouter l'Albanie, la Croatie et la Slovénie étant à part. Six pays donc, peuplés d'un peu moins de 20 millions d'habitants, dotés d'un PIB équivalent à celui de la Slovaquie, peuplé seulement de 5 millions d'habitants. Leur point commun, une histoire récente dramatique ponctuée de guerres et d'épurations ethniques. Ces six pays sont tous candidats à l'Union européenne, mais à Bruxelles, l'Union européenne estime qu'il est urgent de prendre son temps avant de les accueillir. À l'image des querelles picrocholines entretenues par des dirigeants qui n'ont souvent d'autre but que de se maintenir au pouvoir, le nationalisme prospère dans ce petit coin du continent européen. À l'échelle de l'Europe et plus encore du monde, les Balkans occidentaux sont une région périphérique qui n'offre à sa jeunesse qu'une seule perspective, partir pour espérer mieux vivre. Nous avons posé nos micros à la Maison de l'Europe de Paris en marge d'un colloque organisé par le Courrier des Balkans et la Fondation Heinrich Böll et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Laurent Gélin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois le correspondant de RFI dans cette région du monde et le rédacteur en chef du Courrier des Balkans, le Courrier des Balkans qui vient de fêter 20 ans. En deux mots, le Courrier des Balkans, une aventure.
Oui, tout à fait. Le journal a été créé en 1998, au moment même où les affrontements commençaient à se généraliser au Kosovo entre l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, et les forces serbes. Et de ce fait, le Courrier des Balkans a toujours eu une histoire tourmentée à l'image de la région qu'il entend couvrir. Une image qu'il a fallu, je dirais, balancer d'un côté comme de l'autre, répondre au nationalisme des uns et des autres, prendre un peu de distance. Et le Courrier des Balkans est aujourd'hui un journal, vous l'avez dit, qui fête ses 20 ans, avec plus de 40 000 articles en ligne, une vingtaine de correspondants dans la région. Et nous essayons aujourd'hui, comme nous l'avons toujours fait, d'apporter différentes voix, de poser nos stylos et notre micro un peu partout pour comprendre les différentes...
Alors... Il y a 20 ans, un journal papier, aujourd'hui un journal numérique.
Non, le Courrier des Balkans a toujours été sur Internet. On peut s'enorgueillir parmi l'un des premiers pure players en France, à savoir un journal entièrement en ligne.
Alors vous êtes par ailleurs le co-auteur avec Jean-Arnaud de Reims d'un livre, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est une balade, je ne sais pas si le mot vous convient. Là où se mêlent les eaux, c'est une balade qui nous conduit des Balkans jusqu'au Caucase. Le sous-titre, c'est dans l'Europe des confins et c'est une balade que vous avez effectué essentiellement en bateau, voilà, de port en port.
Tout à fait, c'était un projet que nous avons mené maintenant il y a quelques années en bateau pour prendre justement un peu de recul par rapport à l'actualité immédiate et à l'urgence de l'information. On avait voulu pendant ce voyage et ce projet réaliser des reportages journalistiques mais en prenant le temps, et le temps ici c'était celui des éléments comme celui de la mer.
Alors là où se mêlent les eaux, aux éditions de La Découverte. Bonjour Sergeant Tui.
Bonjour.
Vous êtes analyste à Open Society, une ONG basée entre autres à Bruxelles, et vous êtes également éditorialiste à Politico. Vous êtes serbe, vous êtes croate, vous êtes...
Je suis né à Belgrade et disons, je suis serbo-yougoslave. Je ne sais pas comment le définir, voilà.
Mais ça indique bien la difficulté qu'on va avoir à parler des Balkans dans cette émission.
Exactement.
Rien qu'à travers votre identité. Igor Štik, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous êtes une histoire compliquée, hein, né en Bosnie-Herzégovine?
À Sarajevo. Voilà, je me suis réfugié en Croatie pendant la guerre. Je suis passé par Paris, Chicago, Édimbourg et aujourd'hui j'habite à Belgrade.
Vous êtes écrivain. Le dernier livre publié en France s'appelle Le Serpent du Destin aux éditions Galade. Et vous êtes par ailleurs aujourd'hui professeur à la faculté de médias et de communication de Belgrade. Alors, Laurent Gélin, on va faire un petit peu d'histoire, on va pas raconter toute l'histoire des Balkans, il faudrait évidemment beaucoup plus d'une heure, mais enfin, pour resituer les Balkans occidentaux qu'on appelait la Yougoslavie, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Donc, il y a cette Yougoslavie, et puis en 1990-91, le pays éclate sous l'effet déjà de la pression nationaliste.
Oui, alors c'est une histoire, je dirais, tourmentée. La Yougoslavie socialiste est née durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le maquis, le maréchal Tito avait pris le commandement des partisans yougoslaves, Yougoslaves qui ont réussi à la fois à bouter hors de Yougoslavie les forces nazies, mais également les occupants italiens et les différentes factions nationalistes qui se battaient durant la Seconde Guerre mondiale. La Yougoslavie socialiste a existé pendant près de 40 ans, mais durant les années 80, je dirais, plusieurs facteurs ont amené à sa dislocation ou à sa fragilisation. Il y a bien sûr une crise économique majeure dans les années 80. Il y a aussi, je dirais peut-être, l'épuisement du mythe d'unité et de fraternité qui avait conduit à la création de cette Yougoslavie, à savoir dépassement des nationalistes qui avaient existé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, création d'un idéal socialiste yougoslave. Et cette identité, ce mantra va commencer à s'épuiser durant les années 80, alors pour toute une série de raisons, l'une d'entre elles étant bien sûr la chute du mur et l'effondrement des deux blocs, le bloc soviétique qui s'effondre et la Yougoslavie perd sa fonction d'équilibre ou d'équilibriste qu'elle entretenait entre à la fois les Occidentaux et le bloc communiste à l'Est. Et finalement, la position géopolitique de la Yougoslavie va terriblement s'affaiblir et c'est aussi l'une des raisons de son effondrement.
Alors Igor Štík, 27-28 ans après le début du conflit entre la Serbie et la Croatie, 18 ans après la fin de la guerre du Kosovo, le nationalisme extrême mine toujours cette région qu'on appelle donc les Balkans occidentaux maintenant.
Mais ce n'était pas toujours le cas. Il faut rappeler, il y a maintenant 35 ans depuis l'ouverture des Jeux olympiques à Sarajevo.
Jeux olympiques d'hiver.
D'hiver, exactement. Et j'avais 7 ans et j'habitais tout près du stade.
On était en quelle année?
C'était en 84. Donc c'était juste 8 ans avant la guerre terrible. Donc si vous avez posé la question à l'époque, ça aurait été de la folie totale de penser qu'une guerre se déroulera à Sarajevo 8 ans après un événement majeur mondial comme c'était les Jeux Olympiques.
Il faut préciser que Sarajevo, c'est vraiment le cœur de la Yougoslavie, c'est là où il y a des Serbes, des Croates et on dit des Bosniaques musulmans.
Oui, bon, Sarajevo, c'est une ville mythique balkanique qui se trouve au cœur de ce qui était l'ancienne Yougoslavie et qui était toujours une ville mixte. Très souvent, on parle des religions, les catholiques, les orthodoxes, les musulmans et les juifs, séfarades notamment, mais aussi ashkénazes.
Alors, tout s'est bien passé pendant, comme l'expliquait Laurent Genin, jusqu'au début des années 90. Et le cœur du drame, il a été particulièrement violent à Sarajevo.
Oui, la ville a été assiégée pendant 4 ans et détruite. 12 000 personnes ont perdu la vie. C'était le plus long siège de l'histoire moderne. C'est comme cette ville mythique qui unissait devrait être détruite. Malheureusement, la géographie de Sarajevo a permis pour ce genre de barbarie parce que la ville est entourée par les montagnes.
Mais Sarajevo, c'est une cuvette.
Oui. Aujourd'hui, il faut le dire, pour ne pas revenir toujours sous la guerre, c'est une ville reconstruite. C'est très difficile de trouver la destruction qui était. Mais bien sûr, la ville a perdu beaucoup d'habitants. La ville a perdu son énergie, l'économie.
Son multiculturalisme.
Oui, aussi ça, c'est gardé, mais en plus petite quantité.
Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles sur jeunes dans cette région. Et la dernière bonne nouvelle, elle vient de la Macédoine et de la Grèce, où il s'est passé quelque chose qui a été très difficile à mettre en place. La Macédoine a enfin un nom, c'est la Macédoine du Nord. Et il a fallu 27 ans de brouille entre donc la Macédoine du Nord, Skopje, et la Grèce, Athènes, pour arriver à ce qui paraît quand même un compromis simple à mettre en place a priori, et pas tant que ça.
Oui, d'abord, Macédoine a toujours eu un nom. Maintenant, elle a un nom acceptable pour l'Union européenne, disons, parce qu'ils ont trouvé l'accord avec la Grèce. Avant, la Grèce acceptait pas le nom Macédoine comme tel, mais il y avait un nom, l'ex-République yougoslave de la Macédonie, qui était, disons, dans quelque manière imposé sur le pays. Maintenant, il s'appelle Macédoine du Nord, c'était accepté. Mais je voudrais mettre un petit peu les choses en contexte, parce que quand on parle des Balkans, vous avez très bien dit, parlons des bonnes nouvelles, mais aussi, si on parle toujours des Balkans avec le nationalisme, il faut mettre les choses en place, parce que le dernier conflit a eu lieu il y a 20 ans. Dans les Balkans. Donc si maintenant dans les Balkans, c'est comme si on était en 1965 en France. Donc la deuxième guerre mondiale est un souvenir très loin en fait. Donc il y a toutes les nouvelles générations qui ont grandi dans tous les pays des Balkans sans avoir connu la guerre. Et donc, c'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Souvent, le nationalisme est utilisé, mais entre-temps, même travail...
Alors, Serge, je vais aller dans votre direction. Effectivement, oui. 20 ans après, en 1965, par exemple, en France, oui. En Allemagne, effectivement, la guerre est dépassée. Mais entre la France et l'Allemagne, il y a eu quelque chose qui s'appelait la réconciliation franco-allemande. Oui. 20 ans après la guerre, est-ce qu'on peut parler d'une réconciliation interbalkanique ?
Pas dans la même manière comme la France et l'Allemagne, ou peut-être, oui, elle est un petit peu imposée de l'extérieur de l'Union européenne, mais il y a quand même des importantes forces politiques dans la région qui sont prêtes à se réconcilier. Et si vous pensez à le discours officiel dans la plupart des pays, est celle de l'intégration européenne, de coopération régionale, après... Le nationalisme, ce que je voulais dire avant, c'était une tragédie qui provoquait des morts, comme disait Igor. Maintenant, c'est devenu plutôt une espèce de parodie qui est utilisée par les politiciens locaux pour rester au pouvoir.
Alors, Laurent Genel, j'ai l'impression que vous avez envie de réagir. La Bosnie-Herzégovine, c'est un exemple cruel d'un pays totalement figé. On pourrait aussi parler des tensions entre le Kosovo et la Serbie. Alors, est-ce qu'on va vers une réconciliation interbalkanique ou est-ce quand même les abcès de fixation demeurent et dominent ?
Alors, je crois qu'il faut faire une grande différence, une grande séparation entre ce que vivent au quotidien les populations dans les pays des Balkans, à savoir, si vous êtes un étudiant qui a grandi à Sarajevo, vous n'aurez certainement aucune difficulté à aller faire vos études, soit à Belgrade, soit à Zagreb. Dans la région, tout le monde parle la même langue, tout le monde a les mêmes codes culturels, tout le monde mange plus ou moins la même nourriture. Donc vous avez un ensemble culturel tout à fait cohérent, que les gens n'ont jamais oublié, et qui sert toujours de référence à... une grande partie de la jeunesse aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut pas oublier. Ensuite, vous avez des divisions politiques qui malheureusement persistent toujours, et la Bosnie-Herzégovine est un bon exemple. C'est un pays aujourd'hui divisé depuis 1995 en deux entités, donc au nord la Republika Srpska, l'entité à majorité serbe, au sud la Fédération croato-musulmane, elle-même composée de 10 cantons. Donc c'est un État extrêmement faible au niveau central, divisé de façon institutionnelle de façon très forte, avec des blocages très important, ces blocages favorisant les hommes politiques locaux. Donc les hommes politiques aujourd'hui en charge de la destinée de la Bosnie se servent de ces blocages pour eux-mêmes rester au pouvoir. Donc il faut toujours faire une différence entre, je dirais, les politiques, ce dont les politiques profitent, c'est-à-dire profitent du système, profitent de ces blocages, et puis la population qui en pâtit et qui, dans sa grande majorité, voudrait surtout pouvoir continuer à vivre normalement ou mieux et voyager et faire ses études à Belgrade, à Zagreb ou ailleurs. Donc c'est deux dimensions différentes, je pense.
Si on revient un peu entre les tensions entre le Kosovo albanophone et la Serbie, par définition slave, avec cette idée qu'il faudrait, pour redessiner correctement les deux pays, modifier les frontières. C'est-à-dire qu'il y a dans le Kosovo, à majorité albanophone, des zones où les Serbes dominent, et l'inverse est vrai en Serbie, dans une partie de la région.
Alors, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008. Cette indépendance a évidemment été refusée par Belgrade. Le Kosovo est aujourd'hui peuplé d'environ 2 millions d'habitants, à 90% albanophones. Il existe effectivement à la fois une zone dans le nord du Kosovo qui est à majorité serbe, mais également des enclaves peuplées à majorité de Serbes dans le sud du Kosovo, et l'on entend effectivement de plus en plus à Pristina comme à Belgrade des rumeurs qui racontent que des échanges territoriaux pourraient être organisés entre les deux pays pour enfin favoriser ou créer ou un accord de paix définitif. Alors pour l'instant, ce ne sont évidemment que des rumeurs. Je pense néanmoins que ces rumeurs sont extrêmement dangereuses puisqu'elles présupposent la création de frontières communautaires, à savoir calquer les frontières des États des Balkans sur les communautés nationales qui les composent, ce qui n'a jamais marché dans l'histoire de la région ni dans le reste du monde d'ailleurs, et qui pourrait à tout le moins entraîner de nouveaux déplacements de population ou de nouvelles violences qui n'épargneraient pas le Kosovo, pas les Balkans, mais qui pourraient aussi avoir des conséquences plus larges en Europe.
Sojourne ?
Oui, en fait, le problème, c'est comme vous avez bien dit, c'est une totale manque de transparence dans le processus où on a les deux présidents de deux côtés qui mènent le dialogue et où visiblement, en Kosovo, au moins, toutes les autres parties sont contraires. Et en Serbie, c'est un petit peu plus compliqué, mais disons le public largement est exclu de ce débat.
Alors il y a en tout cas une tendance, une volonté, l'idée de modifier un peu les frontières et les cartes de la région. J'en veux pour preuve le rapprochement entre l'Albanie et le Kosovo, deux pays albanophones dans une région slave, qui pourrait à terme n'en former qu'une seule, la Grande Albanie. Alors il y a déjà la suppression des frontières pour les marchandises, et ce n'est qu'un début, Igor Štik.
C'est bien sûr, c'est dangereux de jouer avec ça. On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce qu'il y a le soutien des Américains? Qui vous faire croire, etc. Mais c'est vrai.
La frontière entre le Kosovo et l'Albanie devient de plus en plus poreuse pour les marchandises et les hommes.
Quand même, l'Albanie est un pays établi dans les Balkans, ça fait déjà 100 ans, avec les frontières qui existent. Donc parfois, est-ce que c'est plus ouvert ou pas, mais quand même, il y a des règles, ce sont deux États. Aussi, les deux populations albanaises ne vivaient dans la même entité politique jamais, donc il y a quand même des différences entre le Kosovo et l'Albanie, et j'imagine que il y a beaucoup de gens qui en Albanie qui ne seraient pas super contents d'avoir une grande Albanie, et la même chose au Kosovo, même chose en Serbie ou parmi les Serbes de Bosnie. C'est pas qu'il y a un consensus qu'il faut créer des États purement purs, ethniquement purs.
Il y a une tendance tout de même.
Il y a une tendance nationaliste qui était toujours là. Notre problème est que les options nationalistes sont si présentes, même au sommet des États, toujours, et que on n'a pas su comment en fait les combattre politiquement. Maréchal Tito a su comment combattre les tendances nationalistes dans la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pu pas faire le même truc dans des
circonstances. De manière efficace et autoritaire.
De manière efficace dans la guerre, pour gagner la guerre, c'est toujours comme autoritaire, c'est pas très démocratique, et surtout qu'il avait les collaborateurs de nazis comme les opposants. Mais il a offert, pas lui seul, le mouvement d'opposition, le mouvement de résistance antifasciste, a offert la vision d'une société plus juste, plus sociale, où les questions nationales seront réglées différemment. Il a eu du succès. Le projet yougoslave socialiste a existé pendant 4 décennies. C'est pas si mal. Maintenant, on a un projet nationaliste, capitaliste, qui a complètement détruit ces sociétés. Et on ne sait pas où on est et où est l'avenir.
D'ailleurs, 30 ans après la disparition de la Yougoslavie, il y a encore des Serbes, des Croates qui se disent volontiers yougoslaves. C'est votre cas, par exemple, Igor Štik, vous définissez volontiers comme yougoslave aujourd'hui encore ou pas?
Pour dire aujourd'hui, je suis certainement un post-yougoslave, et quand je dis ça, ça veut dire que l'héritage yougoslave est présent. Mais quand je dis post-yougoslave, je ne dis pas n'importe quoi. Je bouge pas mal entre Zagreb, Sarajevo et Belgrade, et j'enseigne aussi à Ljubljana. Donc, j'appartiens à une petite minorité des vrais post-yougoslaves qui vit cet espace.
Vous êtes un post-yougoslave déjà très européen. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel,
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Les universitaires appellent cette région de l'Europe les Balkans occidentaux. Le commun des mortels évoque plutôt les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Ils sont cinq, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, on dit maintenant Macédoine du Nord, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, auxquels il convient d'ajouter l'Albanie. Six pays donc peuplés d'un peu moins de 20 millions d'habitants, dotés d'un PIB équivalent à celui de la Slovaquie, 5 millions d'habitants seulement. Leur point commun, une histoire récente dramatique, de guerre et d'épuration ethnique. Ces six pays sont tous candidats à l'Union européenne, mais à Bruxelles, l'Union européenne estime qu'il est urgent de prendre son temps avant de les accueillir. À l'image des querelles picrocholines entretenues par des dirigeants qui n'ont souvent d'autre but que de se maintenir au pouvoir, le nationalisme prospère, on l'a vu déjà dans la première partie de l'émission, dans ce petit coin du continent européen. À l'échelle de l'Europe pourtant, et encore plus du monde, les Balkans occidentaux sont une région périphérique qui n'offre à sa jeunesse qu'une seule perspective, partir pour espérer mieux vivre. Nous avons posé nos micros à la Maison de l'Europe de Paris, en marge d'un colloque organisé par le Courrier des Balkans et la Fondation Heinrich Böll. Et je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Laurent Gélin, il est rédacteur en chef du Courrier du Balkan. Il est aussi le co-auteur d'un livre avec Jean-Arnaud de Reims, « Là où se mêlent les eaux ». Des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, une balade en bateau, mais pas seulement, qui nous conduit donc en gros de l'Italie jusqu'à la Géorgie et même un peu au-delà. Sergen Tsivinic, il est analyste à Open Society à Bruxelles, il est aussi éditorialiste à Politico. Et Igor Stix, il est écrivain, son dernier livre en français, Le Serpent du Destin aux éditions Galade, il est aussi professeur à la faculté de médias et de communication de Belgrade. Mais avant de reprendre le cours de notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Thierry Philly.
Bonjour Daniel.
Cette semaine, c'est un article du magazine croate Novosti qui a retenu votre attention, Jerry. On y parle d'un parti qui a le vent en poupe. Il a pour nom bouclier humain et ce qui le caractérise, c'est qu'il est contre tout, tout et même le reste.
Oui Daniel, en fait, c'est un parti qui veut que la Croatie sorte de l'Union européenne et de l'OTAN. Il est contre la vaccination obligatoire des enfants. Il invite même les dépressifs d'arrêter les médicaments. Ses membres admirent Vladimir Poutine et selon les sondages, ce parti est récemment devenu le premier parti de l'opposition en Croatie. Alors, de qui s'agit-il? Le parti s'appelle Živi Zid, ce qui veut dire littéralement « mur vivant » ou plus simplement, comme vous avez expliqué au début, « bouclier humain ». À l'origine, en 2010, les militants de ce mouvement s'opposaient aux expulsions forcées des familles en difficulté à Zagreb. Ils formaient alors des boucliers humains contre les huissiers, les agents de police, d'où le nom. Et c'est le journal Novi List de Zagreb également qui a dressé le portrait de ce mouvement en janvier dernier. Depuis 2016, ils ont 3 députés au Parlement croate, 3 députés sur 151, ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quelques mois qu'ils ont le vent en poupe. Selon un sondage tout récent, ils ont dépassé le Parti social-démocrate qui était normalement le principal force d'opposition au pays. Ils se décrivent comme un mouvement humaniste et post-idéologique et selon les personnes interrogées par le journal, c'est au mouvement 5 étoiles en Italie qui ressemble le plus, un parti anti-système. Et à l'instar des 5 étoiles et d'ailleurs d'autres mouvements populistes en Europe, ils attirent cet électorat délaissé par les partis de centre-gauche. Et plus particulièrement dans les Balkans, les gens délaissés, les perdants de la transition post-communiste. Maintenant, nous savons qu'ils sont contre beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils avancent, eux, boucliers humains? Ils ont surtout un programme ambitieux pour le système de santé, notamment l'augmentation de personnel hospitalier, l'arrêt de l'exode des médecins croates vers l'Ouest. Un programme difficile à désapprouver, mais pas accompagné d'un plan, expliquent les personnes interviewées par Novi List. Bouclier humain n'explique pas non plus les avantages d'une sortie de l'UE et de l'OTAN et le pourquoi de relations renforcées avec la Russie, la Chine ou l'Inde.
Alors, bouclier humain a beau être contre l'Union européenne et prône une sortie de l'Union européenne, ça ne va tout de même pas l'empêcher de participer à ces prochaines élections européennes en Croatie.
Tout à fait, et tout est bon pour s'attaquer à l'Union, même le football. Lors d'une intervention à la télévision nationale, l'un des leaders du mouvement a prétendu que le gouvernement et les sociaux-démocrates sont en train de monter un complot main dans la main avec Bruxelles pour abolir l'équipe nationale croate de football pour fonder une équipe UE, tous les pays membres confondus. Souvenons-nous que la Croatie était finaliste lors de la dernière Coupe du Monde face à la France. La France a bien sûr gagné, mais les Croates sont très doués en football, donc scandale. Alors, boucliers humains sont-ils aussi doués, électoralement parlant? Eh bien, rendez-vous en mai pour la réponse.
Merci Jerry Philly. Une équipe de foot européenne pour éliminer la fameuse et brillante équipe de foot croate. Les fake news sont en pleine forme. On ne sait pas contre qui jouerait cette éventuelle équipe européenne. Forcément contre la Chine, la Russie ou peut-être le Brésil, je ne sais pas. En tout cas, Courrier International, l'hebdo courrierinternational.com, le site. L'original, l'émergence de ce parti bouclier humain, est-ce qu'il est finalement très révélateur de l'ère du temps, de ce qui se passe dans les Balkans? Ça révèle quand même, je dirais des Croates un petit peu perdus dans l'air du monde.
Oui, bon, ça révèle, je dirais, un phénomène qu'on retrouve ailleurs en Europe, à savoir une désillusion profonde dans le fait politique même et dans les partis traditionnels qui ont géré ces pays depuis l'éclatement yougoslave. En Croatie, il s'agit traditionnellement du HDZ à tendance droite nationaliste et des sociodémocrates plutôt de centre-gauche. Et ces deux partis se sont succédés au pouvoir depuis 1991, plus précisément depuis 2000, où le dirigeant Franjo Tudjman, qui était président de 91 à 2000, est finalement mort et il y a eu une transition politique. Mais on a ces deux formations politiques qui se sont partagées le pouvoir ces dernières années. Et finalement, l'émergence de tels mouvements n'est pas surprenante quand on voit à la fois l'état économique de la Croatie, un pays d'où les jeunes partent massivement, même si la Croatie fait aujourd'hui partie de l'Union européenne. Les jeunes Croates continuent à partir en Allemagne pour trouver un avenir meilleur.
Alors il faut revenir un peu sur le cas de la Serbie, de son président Aleksandar Vučić. Il était historiquement un nationaliste extrême et il est, une fois arrivé au pouvoir, devenu un grand défenseur de l'intégration européenne. Cette métamorphose d'un président très très à droite, très à l'extrême droite, hein, qui pendant la guerre a eu des rôles importants, il a été le ministre de Slobodan Milošević, et qui devient... En tout cas, semble-t-il, un grand défenseur de l'intégration européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache?
Merci. Mais ça cache beaucoup de choses, en fait. Ça cache le fait, vous avez bien dit, son parti est retourné au pouvoir en 2012. Depuis ce moment-là, on a eu une espèce de recul démocratique dans le pays. Donc, oui, en parole, le parti de président serbe, Vučić, est pro-européen, mais tout ce qu'ils font dans les médias sur leur contrôle, les politiques qu'ils mènent dans le pays, sont pas vraiment liées à cet idéal prononcé qu'il voudrait, où il voudrait mener son pays. C'est l'intégration européenne. C'est le contraire qu'on voit. Donc, en fait...
Alors, est-ce que ça s'appelle de la schizophrénie?
C'est une schizophrénie totale, parce que depuis qu'ils sont retournés au pouvoir, on a eu tous les médias progressivement seront mis sous le contrôle du parti au pouvoir. On a pratiquement perdu aucune compétition politique dans le champ politique. On a un parti monolithe qui a plus de 50% de consensus dans les élections qui sont très peu démocratiques, disons.
L'opposition a un peu de place.
Aucune place. Et donc, quand on n'a pas la place dans les institutions, l'opposition, et les gens sortent dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé au 8 décembre de l'année dernière. Les manifestations ont commencé en Serbie et elles se déroulent dans tout le pays. Maintenant, chaque samedi dans la capitale, Belgrade, mais aussi dans la plupart des villes du pays. Donc,
alors, on a l'habitude, ici en France et notamment à Paris, des manifestations qui se déroulent le samedi. C'est aussi le cas de Belgrade. C'est pas du tout le même type de manifestation. Sont les manifestants de Belgrade réclament plus de liberté de la presse, plus de démocratie, plus de liberté, une place pour l'opposition.
Oui, exactement. Et la fin aux violences politiques, donc ce sont pas des manifestations violentes. Ça, d'abord, il faut dire, il n'y a aucun...
Oui, on ne brûle pas les voitures à Belgrade.
On ne brûle pas les voitures. Et donc, on demande le retour à la situation avant 2012, dans le sens, parce que le parti du président, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont promis qu'ils vont mener le pays vers l'Europe et qu'ils vont respecter les règles du jeu, donc la démocratie établie l'année 2000, quand l'ancien dictateur Milosevic a perdu le pouvoir. Et il ne respecte plus ces règles du jeu. Donc, il y a une forte réaction de la population. Ça.
Alors, la situation en Serbie est quand même assez étrange, parce qu'à la fois, officiellement, le gouvernement d'Aleksandar Vučić réclame et milite pour une intégration le plus rapidement possible à l'Union européenne. Et en même temps, il fait les yeux doux à Vladimir Poutine, qui est venu à Belgrade en janvier dernier, qui a eu un accueil triomphal. On a l'impression de schizophrénie. Que veut la Serbie, Igor Štić?
Bon, peut-être comme mon collègue Sergent Cvic a dit justement, c'est pas peut-être que la Serbie est schizophrène, c'est que c'est la politique claire, bien pensée de président actuel, c'est-à-dire qu'il faut créer un chaos complet, chaos d'informations, chaos d'idées, chaos de complots, chaos d'interprétations pour mieux gouverner. Contrôler les informations, c'est extrêmement important. Contrôler l'espace médiatique est extrêmement important. Et ensuite, le processus électoral. Dans les Balkans, ce qui se passe, c'est pas seulement les élections. Les dirigeants savent très très bien que la politique se mène chaque jour. C'est-à-dire que votre boulot dépend du parti au pouvoir, votre perspective dépend de la loyauté au parti au pouvoir. Et ça se joue chaque jour.
Sergent Cvic, vous vouliez rajouter quelque chose?
Mais oui, exactement. Il y a une forte contradiction à cette politique pro-européen, entre guillemets, du gouvernement, dans les sondages. Quand vous regardez le soutien de l'Union européenne dans le pays, donc avant l'arrivée au pouvoir de ce parti, par exemple en 2009, on a eu un soutien de 73% de la population serbe à l'Union européenne. Après, en 2016, donc ils sont venus au pouvoir en 2014, je dis pas que c'est seulement ce qu'ils font localement qui a un impact, mais on a un soutien de 43%, donc on a perdu 30% de soutien pour l'Union européenne sous un gouvernement soi-disant pro-européen. Donc ça, c'est une particularité, je dirais.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à la Maison de l'Europe de Paris avec Laurent Gélin, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, avec Sergent Cvic, analyste à Open Society, éditorialiste à Politico, et avec Igor Štić, écrivain et professeur à la faculté des médias de communication de Belgrade. Et nous interrogeons sur le devenir des Balkans occidentaux, qu'on appelle aussi ces pays issus de l'ex-Yougoslavie. Alors, au-delà des querelles qui, à l'échelle du monde, peuvent paraître quand même picrocolines. Hein. Les Balkans sont dans une situation économique difficile, démographique catastrophique, à tel point que l'alternative pour la jeunesse entre rester et partir, c'est souvent partir, Laurent Gélin.
Oui, je dirais que après les épisodes guerriers des années 90, pendant toutes les années 2000, on avait vu beaucoup de gens originaires des Balkans et qui vivaient à l'étranger revenir dans les pays en Serbie, en Croatie, au Kosovo pour essayer de tenter quelque chose, pour essayer de faire leur vie sur place, de pourquoi pas monter des business, de s'engager en politique. Et finalement, ces années 2000 ont été des années d'espérance, d'espoir. Et on a assisté peu à peu à un assèchement de cet espoir. Alors, avec l'apparition de régimes autoritaires qui n'autorisent plus la société à respirer, avec une situation économique évidemment toujours difficile. Mais je dirais que la situation économique difficile n'est pas ce qui fait principalement partir les gens. Bien sûr, c'est toujours mieux de gagner 4000 euros en Allemagne que 200 euros chez soi. Mais ce qui fait partir les gens en dernier ressort, c'est le manque de perspective, c'est le manque d'espoir qu'un jour la société se transforme, que les dirigeants nationalistes qui sont au pouvoir et qui cadenassent les médias, les associations, la société, etc., que ces dirigeants se perpétuent toujours et encore.
À terme, il y a un vrai problème démographique dans toute cette partie de l'Europe, que ce soit la Serbie, la Croatie, le Monténégro ou l'Albanie. Un déficit de natalité et puis, comme l'a évoqué Laurent Gélin, un exode massif, notamment des jeunes, les plus dynamiques, les plus cultivés. Igor Štić.
Oui, c'est une situation vraiment, vraiment difficile. Ce n'est que la guerre qui a déjà fait fuir les gens, mais et aussi 130 000 morts. Mais la natalité, qui est une natalité d'une société moderne, les gens ont un ou deux enfants ou pas enfants du tout. Et ensuite, maintenant, il y a un exode économique ou simplement un choix de partir en Allemagne, en Irlande, pas vraiment en France, peut-être en Scandinavie, pour trouver une vie meilleure.
Non,
oui, non, je voulais rajouter sur ce que dit Igor, avec raison. Effectivement, les gens partent, et dans les Balkans, les gens partent tant et si bien que dans beaucoup de domaines, on va certainement être bientôt obligé d'importer de la main-d'œuvre. Par exemple, les cafés, les boîtes de nuit, les restaurants sur la côte croate en été manquent de main-d'œuvre. Elles vont déjà chercher au Monténégro, en Serbie, des serveurs et des cuisiniers. Mais quand ces derniers seront tous partis en Allemagne, il faudra à leur tour chercher des gens un peu plus loin, certainement en Asie ou ailleurs.
Alors je l'ai dit, tous ces pays sont candidats à l'Union européenne. Pourquoi ?
Parce que ils font partie du corps de l'Europe géographique, donc et parce que en 2003, tous les dirigeants de tous les pays membres de l'Union européenne, inclus la France, ont donné la promesse aux pays des Balkans pour adhérer à l'Union européenne, et parce que je dirais aussi quelque chose qui paraît être étrange, parce que en fait il faut compléter le processus de l'unification de l'Europe, et si il y a quelque chose qui va donner une force à l'Union européenne après le Brexit, c'est effectivement d'intégrer les pays qui veulent entrer à l'Union européenne et qui peuvent, comme disait Igor, apporter quelque chose à cette union.
Mais Serjane Tivik, vous avez dit vous-même, en prenant le cas de la Serbie, l'enthousiasme, l'adhésion à l'Union européenne, elle était 73%, elle est retombée à 43% en quelques mois, quelques années. Ça veut dire qu'il n'y a pas une adhésion à l'Union européenne, et peut-être même aux valeurs européennes, quand on voit que c'est très difficile en Serbie, etc. Je veux dire, l'idée de l'adhésion, c'est quoi ? C'est de gagner un peu mieux sa vie ? C'est plutôt d'avoir, de vivre dans un pays où il y aura, la liberté sera reconnue, les libertés individuelles seront reconnues, l'état de droit sera reconnu. C'est quoi l'ambition, le désir profond de tous ces balkaniques occidentaux ?
Je vais vous raconter une histoire. Et en fait, j'ai un voisin à Belgrade que je rencontre toujours dans l'ascenseur. Et il adore Poutine. Il connaît même pas les noms des dirigeants européens, à part Merkel et peut-être président Macron. Mais il me demande toujours pour les opportunités pour son fils de vivre en Belgique. Et moi, disons pour rigoler, je lui demande, mais pourquoi pas en Russie ? Et vous savez ce qu'il me demande ? Tu es fou, il me dit. Donc il y a une espèce de... Tout le monde veut l'Union européenne pour différentes choses, mais il y a un consensus que la vie est pas seulement meilleure économiquement, mais que c'est plus facile de savoir qu'il y a plus de prédictabilité, disons, de la vie. Donc les gens, ils veulent l'état de droit, ils veulent les institutions, ils veulent pas être gouvernés par des chefs tribales, ils veulent avoir ce qu'ils ont eu avant.
Laurent Gélin.
Oui, pour juste une anecdote, pour rebondir, je vais souvent chez un barbier à Skopje, dans la Charchia, dans le vieux quartier.
Car il faut dire que vous êtes barbu.
Voilà, dans le vieux quartier ottoman de Skopje. Et donc ce vieux barbier me raconte souvent pourquoi tous les pays des Balkans devraient intégrer l'Union européenne, alors que c'est l'Union européenne qu'aurait dû intégrer la Yougoslavie.
Alors en tout cas, l'Union européenne a plutôt tendance à traîner des pieds. On peut la comprendre, hein. Il y a eu un petit signe d'encouragement lors de la présidence tournante de l'Union européenne par la Bulgarie, c'était en 2018. Je dirais assez symbolique, hein, qui veut rebondir sur un petit signe d'encouragement, mais reportant le principe de l'adhésion, en tout cas le processus, au lendemain des élections européennes qui vont se dérouler en mai 2019.
Mais retournons au sondage, donc ce petit signe d'encouragement, vous savez ce qu'il a porté ? En Serbie, de 43% en 2016, on a remonté à 55%. 5%. Bon, c'est sûrement pas 73% comme 2009, l'année après la libéralisation de visa, mais quand même, ça démontre que ce que l'Union européenne fait a un impact direct et fort dans les Balkans. Donc, et cette espèce de réticence d'avoir les Balkans dans l'Union européenne, qu'on voit, qui est sûrement influencé par les processus politiques dans les pays de l'Union, élections européennes, mais il y a les élections toujours, en pensant comme ça, on pourrait attendre pour que ces six petits pays entrent dans, je sais pas, 50 ans, l'Union européenne. Donc, je pense que, en fait, il faut un petit peu plus regarder les sondages, se concentrer plus de quoi les citoyens européens est-ce qu'ils sont vraiment contraires à cette unification de l'Europe, ou ils sont contraires à un élargissement continu sans fin ou frontières. Donc ça, c'est en fait une vraie question. On part de 20 millions d'habitants qui sont européen.
Alors 20 millions d'habitants, 6 pays, le plus petit 600 000 habitants, c'est le Monténégro à peu de choses près, 7 à 8 millions d'habitants pour la Serbie, mais que de situations potentiellement conflictuelles, et l'Europe n'en manque pas, Igor Stick.
Oui, c'est bon, comme toujours, quand on parle des Balkans, on parle des conflits, donc c'est vraiment devenu un stéréotype.
Il y a quelque chose de vrai tout de même.
Il y a un petit peu et un peu de vérité, comme dans tous les stéréotypes, c'est-à-dire que les Balkans, pour la plupart d'histoire, n'étaient pas même à appeler des pays des guerriers ou des pays balkanisés, etc. C'est une invention il y a 100 ans autour des guerres des Balkans. Et ensuite, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, comme partout en Europe, donc il n'y a pas d'exception. Et ensuite, une période de paix, etc. Et voilà ce qui s'est passé dans les années 90. Donc, il faut éviter de dire que la violence est la règle. En fait, non. Et aussi, il faut le dire, par exemple, qu'en Bosnie, on a maintenant 25 ans de paix. Il faut quand même dire que parfois, le verre est à moitié plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières entre les entités différentes. C'est pas qu'il y a des gens.
Mais on peut aller de Sarajevo à Banja Luka
sans problème,
sans montrer son passeport.
Exactement. Peut-être il y a des armes, il n'y a pas d'hommes armés autour de vous. C'est-à-dire que le pays à certains degrés reconstruit, et aussi c'est le pays qui arrive à collecter les impôts. C'est-à-dire que c'est pas un pays, comment dire, failed state, un pays, disons, complètement fragile qui n'existe pas. Si un pays arrive à collecter les impôts, ça veut dire que il y a quand même des structures étatiques qui fonctionnent. Le problème est, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Et comme j'ai dit à ce colloque, en Bosnie, 60% du budget est distribué aux politiciens. C'est-à-dire que c'est un business d'être politicien en Bosnie et un grand business d'être un politicien nationaliste.
Alors, Gélin, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Le risque, c'est évidemment peut-être que si ces pays, comme le disait Serjan, 20 millions d'habitants, c'est pas grand-chose, hein, c'est la population de la Roumanie, économiquement, c'est pas considérable à intégrer. S'il n'y a pas d'adhésion, il y aura une zone grise avec là aussi des risques pour l'Union européenne, évidemment pour tous ces pays aussi.
Oui, je pense que l'Union européenne aurait pu s'épargner beaucoup de problèmes en intégrant en bloc tous les pays de la région. Le processus d'intégration est souvent un processus politique beaucoup plus que économique ou sociétal, et l'Union européenne effectivement aurait pu s'épargner tout ça en intégrant rapidement 20 millions d'habitants. Alors ce qu'on peut craindre pour l'avenir, c'est qu'effectivement ce processus d'émigration de la population s'accélère et s'amplifie, et que l'unique rôle qui soit dévolu aux Balkans, ce soit finalement celui de garder les frontières extérieures de l'Union face aux réfugiés, aux migrants qui transitent depuis la Turquie, la Grèce sur la route des Balkans pour remonter vers l'Europe occidentale. On peut craindre malheureusement que l'intégration européenne prenne encore beaucoup de temps, pas seulement à cause des fragilités des pays des Balkans, mais aussi à cause de la fragilité de l'Union européenne elle-même.
Oui, qu'il y a beaucoup de soucis, le Brexit, l'immigration, la montée du populisme, sans compter des désunions rampantes dans certains pays d'Europe centrale et orientale, la Hongrie ou la Pologne, évidemment, ça ne facilite pas le processus d'union et d'adhésion des Balkans occidentaux.
Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que les Balkans font partie du continent européen et sont soumis à des enjeux, à des dynamiques qui les dépassent très largement. Alors des dynamiques internes à l'Union européenne, des dynamiques internes aux voisins immédiats des Balkans que sont la Turquie ou des voisins un peu plus éloignés comme la Russie ou la Chine. Les Balkans ne sont pas isolés dans un monde à part, mais font partie, je dirais, d'un continent en mouvement et souvent font les pots cassés un peu des expérimentations politiques dangereuses qui se passent ailleurs.
Un avenir gris ou rose pour les Balkans, Igor?
C'est bien sûr très, très difficile de choisir. Peut-être on peut jouer un rôle pour un avenir rose.
Moi, non, mais écoutez, on a beaucoup souffert parce qu'on espérait un avenir rose après les changements démocratiques dans les pays de Balkans. Et donc, quelque chose entre le gris et le rose. Mais je reste optimiste.
Merci pour cette conclusion. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe Technique. Marc Fischer, réalisation Guillaume Munier, avec Maria Afonso et Jerry Philly de Courrier International. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr, rubrique émission, ou encore l'application mobile RFI Pure Radio. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Ezeskel, où que vous soyez, à Belgrade, Tirana, Skopje, Zagreb, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.